Ici, pas de pitié, pas de casque, même pas de jackstrap. Ça joue rough. Tout pour avoir le dernier mot. Voici les mangeux de pot.
Karel est mort. Re-bienvenue chez toi, ma chère amie. Comment vas-tu?
Ça va super bien, Greg. Je suis contente d'être de retour à la maison. Je vais m'ennuyer des pâtes de l'Italie, mais ouais, contente d'être de retour, pardon, et d'avoir pu regarder la game à la maison aussi du CH. Fait que il était temps là.
Ça, c'est les pâtes, on peut s'en faire à la maison, mais tu sais, les pâtes en Italie, c'est tout le temps spécial. C'est juste que si tu restes là trop longtemps, un moment donné, tu te dis, boy, il va falloir que je m'entraîne
non,
fort.
Non, parce que c'est tout. Il n'y a pas de préservatif, il n'y a rien là-bas. T'es même pas, tu filmes même pas. Et gonflé, Marco, il me fait le signe, il sait, il est au courant de ça, je te jure. Allez-y, le café, tout là-bas est merveilleux.
Qu'est-ce qu'il fait, là, le beau Marco, encore? Là? Okay.
Ben, il me disait que
il pleure.
Raison. Tu pleures?
Oh, comment ça?
Il pleure, parce que moi, manquer l'Italie, c'est un état d'être en tout temps.
ouais, ben écoute, je suis sur la même page que toi aujourd'hui.
OK, les amis, ouais. On va commencer parce que sur un premier sujet, il y a comme un petit quelque chose là, que Karel n'est pas trop d'accord. Là. Dans les changements que Martin Saint-Louis a fait dans l'alignement, donc Jaden Struble qui s'insère dans l'alignement, Jakub Dobesch qui sera d'office devant les buts du Canadien. Marco est d'accord avec ces changements-là, mais Karel, quel est le bémol là, que tu vas amener là-dedans?
Ben, tu sais, je comprends pourquoi Martin l'a fait, l'a super bien expliqué. Il veut pas les laisser de côté, puis il veut essayer de rentrer Veleno bientôt, mais. En tant que joueuse, en tant que joueur dans cet alignement-là, en tant que maman, t'aimes ça quand que c'est pas routinier, là, mais t'aimes ça quand t'es capable de créer une chimie, quand t'es capable de garder un peu le momentum de avec qui tu joues ou qui est sur la patinoire quand t'es là. Puis en tant qu'avant, t'aimes ça aussi avoir ou connaître tes paires de défense, puis qu'est-ce qui va se passer quand t'en ramènes à la ligne bleue puis ces affaires-là. Fait que le bémol que j'ai à travers ce changement-là, c'est je trouve ça, c'est correct. Dans ma tête, je comprends pourquoi on fait le changement, mais en même temps, pourquoi changer une recette gagnante quand les gars commençaient potentiellement à se créer un petit peu de chimie entre eux. En tant que joueuse, moi, j'haïssais ça pour mourir quand on changeait l'alignement, quand ça allait bien, que ça soit entre les périodes ou après les matchs. Fait qu'on dirait que c'est ce bémol-là que j'amène aujourd'hui versus l'analyste de ce monde qui comprend la décision du coach. Ouais.
mais quand tu dis après une victoire ou quand ça va bien ou quoi que ce soit, tu sais, est-ce que le match de Seattle contre Seattle mardi était si convaincant que ça?
Ben, de là est le point. Puis j'en parlais avec FX un peu, on veut rentrer Struble, on veut donner une chance, puis en même temps, j'ai pas nécessairement, je suis pas prête à m'obstiner avec Marco en disant que Jacka a eu le meilleur match de sa vie non plus contre Seattle. Fait que tu sais, je comprends les changements, est-ce que le gardien, je trouve que Sam a fait son boulot, puis qu'il y a eu des buts chanceux aussi ici et là qui se sont faits, là, des déviations par 26 000 patins, puis que ça a rentré dans le fond du filet aussi. Fait que tu sais, c'est le début de la saison, mais encore là, le bémol de la joueuse de hockey en moi fait en sorte que, ouais, ça aurait pu changer puis ça aurait pu rester.
Marco, je t'ai entendu râler puis réagir là, pendant que Karel parlait, ouais. Voulais-tu? Il dit oui.
c'est des bons points. Puis moi, la seule chose que j'apporterais pour contrer ça, c'est juste, quand on dit que ça va bien, il y a plusieurs fois où ce qu'un club gagne, même si sur si tu regardes la feuille de match à la fin du match, tu te dis pas nécessairement le club le plus dominant sur glace. Puis ça fait une coupe de game qu'on voit ça. On l'a vu contre Détroit aussi. Seattle était meilleur à 5 contre 5, spécialement en troisième période. Puis je pense que c'est là où ce que malheureusement la game de Arber Jacka a un peu dérouillé, c'était en troisième contre Seattle. Et je dirais, rendu à ce moment-là, tu t'enlignes pour avoir un autre voyage, cette fois-ci dans l'Ouest canadien. Tu as un back-to-back là-dedans aussi. Je me dis que tu veux avoir tes 7 défenseurs frais. Mm-hmm. Mais avec ceci dit, je me suis attendu à un changement en attaque aussi pour garder Joe Veleno frais. Donc, ouais. C'est pas constant en termes de logique non plus. Donc, pour moi aussi, il y avait un petit bémol, mais c'était plus le fait que pourquoi on rentre pas Joe Veleno au centre, spécialement quand tu as un club qui est très fort au centre, ouais. Pas nécessairement offensivement, mais aux mises au jeu direct, si on peut se le dire.
T'sais, stratégiquement parlant, je suis d'accord avec toi là-dessus, 100%. Parce que, puis on est censé se obstiner, Marco, fait que je reviens à mon point, mais ouais. À travers ça, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais à travers ce que tu viens de. Ça aurait été fun qu'il y ait une compréhension du. Qu'on change le gardien, on change l'avant, on change le def.
Ouais.
Parce
OK,
qu'on
donc.
Peut le garder prêt.
Donc, de votre côté, Joe Veleno aurait dû jouer le match de ce soir.
Ouais.
À la place de Kapanen,
mettons. OK, mais là, ça, c'est intéressant.
Ça, c'est intéressant, là. Attendez. Là.
Ben, c'est ouais. Ça. Parce que non, mais Kapanen?
Non, mais c'est
je sais pas si c'est Kapanen, par exemple. Faites attention un
mais
peu.
Mais t'enlèves qui? Ouais, parce que là, il faut enlever quelqu'un. En défensive, c'est clair. Là. T'enlèves pas un des cinq autres défenseurs.
Ouais,
puis, tu sais, mon respect à Harbert Jacquet, c'est juste. Nommez-moi qui d'autre des cinq autres t'enlèves, là, tu sais. En offensive, t'enlèves qui pour rentrer Joe Veleno?
C'est là que ça vient un peu touchy parce que ce trio-là que tu viens de toucher avec Kapanen, moi, j'y touche pas, là.
Je t'sais... veux des réponses.
C'est parce que...
C'est...
Vas-y, Marco. Non, vas-y, Marco.
Moi, ça allait être Kapanen. Anyway, là, je pense que ça allait
en affaire d'expérience, je pense.
C'est ça. Puis ça joue le même rôle aussi puisque tu vas rentrer. Puis moi, la raison pour ceci, puis je pense qu'il y aurait un changement de trio sur le deuxième et le troisième si tu fais ça, là, mais l'idée, c'est d'avoir un centre gaucher absolument sur un de tes top 3 trios. Mm-hmm. Et en ce moment, c'est New Hook qui est comme le centre gaucher qui prend les mises au jeu à la gauche, puis on a vu à quel point ça l'affecte leur capacité de commencer le jeu avec possession de rondelle, ce qui a toujours été un problème pour le Canadien de Montréal, ouais. Outre le trio de Suzuki. Donc, c'est là où je me dis, Veleno rentre, ou tu montes Kapanen, ou tu changes un des alliés de bord, mais pour moi, je pense que tout le monde dirait la réponse facile, c'est Patrick Laine. Moi, je pense qu'il a joué un très bon match, même si les détails n'étaient pas là nécessairement contre Seattle. Je pense qu'à 5 contre 5, il n'a pas fait mal à l'équipe, mais j'aimerais voir un peu plus, mettons, de certains alliés.
OK,
donc,
mais Marco,
moi,
attends deux secondes, Marco. Pour un jeune comme Oliver Kapanen, tu sais, tu les suis les jeunes, Marco. T'as un podcast qui s'appelle Processus sur nos ondes, là, qu'on diffuse.
Ça,
là. Non, mais pour la confiance d'un jeune joueur comme Kapanen, puis il y a moi, le Kapanen, dans mes 3 étoiles lors de la première semaine du Canadien, là, il joue un moins bon match. C'est pas détruire sa confiance de tasser un jeune dans une situation où, oui, peut-être que Veleno aurait fait un meilleur travail ce soir. On le sait pas. De toute façon, le match n'est pas encore commencé. Le match n'est pas encore joué. Mais c'est pas de détruire la confiance d'un jeune.
Pas nécessairement. Premièrement, ce jeune-là, il sait très bien. C'est les rangs professionnels, ça fait 4 ans qu'il joue. Il s'est fait sauter dans l'alignement. Donc, il est capable d'en prendre aussi, d'avoir rencontré et le connaître. Donc, ça, c'est pas nécessairement un problème. Puis, c'est pas nécessairement Kapanen qui devrait sortir de l'alignement. Il y a d'autres éléments que tu pourrais argumenter. Tu pourrais argumenter Patrick Laine dans ce contexte-ci. Puis, c'est ça, vraiment, la difficulté de rentrer un Joe Veleno dans l'alignement, c'est qui, c'est difficile d'enlever quelqu'un parce qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un en attaque qui a mal joué. Et c'est à 5 contre 5, c'est la réalité.
Mais c'est pas une affaire de mal jouer, là. Parce que vous avez parti en disant il faut les garder frais. Et
c'est ça. Mais en y allant avec cette réponse-là, puis en répondant, peut-être appuyant ce que Marco il disait à FX, c'est que le gars, il n'est pas encore établi. Puis ce que je veux dire par là, en parlant de Kapanen, c'est que je veux dire, pas qu'il est habitué, là, mais il s'attend à potentiellement être in and out un petit peu, mais gagner sa place à y aller aussi. Puis si on y va, comme Martin en parlait, avec la stratégie de « je veux rentrer mon monde dans le line-up pour les garder frais et dispo ou bien être prêt pour la suite des choses à travers la saison », j'y ai le choix le plus facile à prendre versus genre... Puis je dirais pas ça d'une façon malsaine ou peu importe, mais créer un drama dans l'équipe pour absolument rien si t'enlèves un autre joueur. Tu comprends ce que je veux dire par là?
Ouais, puis pour moi,
plus pour le développement.
Ben, pour le développement, pour moi, c'est moins pressant de mettre Joe Veleno sur la glace qu'un Jaden Struble. Parce que Joe Veleno a quelques années de plus, il a plus d'expérience dans la Ligue nationale. Il connaissait son rôle en s'en venant avec les Canadiens de Montréal aussi. Là. Je pense qu'il était très au courant qu'avec le 13e attaquant, ça pouvait être une
c'est probablement pour ça qu'il a juste fait ces deux changements-là.
Exact.
Donc, ouais,
il va jouer, mais ce sera pour un autre jour. Là, on en a un autre aux autres avant la pause, vous deux. Là. Et vous n'êtes pas d'accord sur celle-là non plus. Pour vous, est-ce que vous en avez assez vu pour dire que les Canadiens de Montréal ont eu le dessus dans la transaction qui a amené Zachary Bolduc à Montréal et Logan Mailloux avec les Blues de Saint-Louis?
Et là, faut le dire, là, ça fait suite au match aussi difficile de Logan Mailloux hier avec les Blues. En fait, le début de saison un peu plus difficile de Logan Mailloux.
Moins 4.
Ouais.
Dans le match d'hier.
Faisait froid hier.
Faisait frais.
Marco, je te laisse y aller en premier.
Ben écoute, moi j'ai toujours été j'ai toujours prôné de la patience quand il vient le temps d'étiqueter un échange gagné ou non. Spécialement quand tu deals avec des jeunes, spécialement quand tu deals avec des défenseurs droitiers. Quand on regarde côté position, si Logan Mailloux est capable de devenir un défenseur top 4 et si Zachary Bolduc reste ailier top 6, c'est toujours le défenseur droitier top 4 qui va avoir plus de valeur pour une équipe qu'un ailier top 6 quand tu es en train de le construire. Maintenant, pour évaluer tout ça, faut aussi voir à quel point ils se rendent à l'apogée de leur carrière pour dire OK, Montréal a fait le bon choix. C'est certain que dans l'immédiat, tu as pris un jeune qui jouait déjà dans la Ligue nationale puis tu le mets avec le Canadien de Montréal, il va mieux paraître que le défenseur qui en arrachait un peu dans la Ligue américaine et qui avait besoin d'un peu plus de millage. Donc, moi, c'est ma vision des choses. Logan Mailloux a la capacité offensive de la défensive pour take over des games, mais c'est être capable de vraiment gérer l'espace en zone défensive et suivre les gars dans les coins et s'assurer de prendre la bonne décision en sortie de zone qui va lui permettre d'être un défenseur de tous les jours dans la Ligue nationale.
Ouais. Karen?
Ben, la question était, vous en avez assez vu pour dire que le Canadien avait le dessus sur la transaction. En ce moment, oui.
Merci moi, de me rappeler la propre question que je vous ai posée il y a exactement une minute.
Moi, j'en ai assez vu, personnellement. Ouais, je trouve que Bolduc... Puis tu sais, c'est vrai ce que tu dis, Marco, l'évaluation puis le développement d'un défenseur versus un joueur d'attaque aussi, c'est totalement différent. Puis plus tard, tu sais, peut-être que dans 3 ans, maintenant, on va avoir la même question, puis on va se dire, OK, potentiellement, Mailloux est là. Mais dans mon humble avis, de ce qu'on a vu de Logan Mailloux depuis qu'il est rentré dans le programme avec le CH, comment ça a été les hauts et bas, mettons, qu'on voit, ou le manque de constance, puis tu as décrit exactement son jeu défensif qui est... C'est comme une anticipation qui est... Il y a trop de pensée versus de l'action, mettons, pour lui en ce moment, en termes de lecture de jeu. Puis même dans les dernières années, je trouve que avec le besoin qu'on avait... Avec ce qu'on avait aussi comme but, peut-être cette saison, ou qu'est-ce qu'on avait besoin de remplacer, je trouve que nettement, on gagne dans cette transaction-là avec le maintenant. Comme ouais. J'ai dit, dans 3 ans, peut-être qu'on se reparle, puis tu me dis, hey, j'avais raison. Mais on dirait que dans mon évaluation aussi des choses, je ne sais pas si je le vois, ce potentiel-là encore avec Logan. On dirait que je m'attendais à l'avoir vu un peu plus constant en date d'aujourd'hui versus. Mettons, je m'attendais un peu plus de lui, disons, de la façon qu'on nous l'avait vendu en tant que droitier, grand, gros, performant, lancé de feu, puis tu sais, simple et vulgarisé comme ça. Je trouve qu'on l'a manqué un peu, celle-là, avant.
Écoute, moi, je vais être franc, dans mon évaluation des deux espoirs depuis, parce qu'ils sont issus du même repêchage en 2021, j'ai jamais eu Logan Mailloux comme espoir supérieur à Zachary Bolduc. J'ai toujours eu Zachary Bolduc en avance quand on évaluait les espoirs en tant que tels. Mais quand tu es un DG, le but, c'est d'aller chercher des jeunes pour des atouts que tu as déjà. Ils ont beaucoup de liens à Saint-Louis, donc eux autres, ils peuvent se le permettre, spécialement avec Justin Carbonneau qui joue dans notre cours ici, qui est en train de très bien faire dans la LHGMQ. Ouais. Donc moi, je me suis dit, c'est plutôt la difficulté de trouver de la qualité à cette position-là parce que les défenseurs droitiers, après, les centres top 6, c'est la denrée rare dans la Ligue nationale. Donc, c'est le potentiel même que ça clique avec ce joueur-là et le potentiel est là. Ça prend une saison où ça clique, puis on l'a vu avec d'autres défenseurs dans la Ligue nationale par le passé, ça en prend une. Et soudainement, tu as un défenseur top 4 offensif, physique, capable de jouer dans les séries. Et c'est exactement ça que les partisans s'attendaient de Logan Mailloux. Donc, les Blues s'attendent la même chose. Et si ça l'augure bien, et c'est ça qui se produit, mais Zachary Bolduc va devoir être un très bon allié pour que ça soit égal ou que ça soit du côté de Montréal. Donc, c'est pour ça, je me garde encore une petite gêne. Je dirais, on s'en reparle d'ici 2 ans. Mais parce que moi, il faut l'ajouter, j'ai une confiance éternelle en Jim Montgomery en tant qu'entraîneur technique dans la Ligue nationale. C'est un gars qui a ajouté beaucoup de détails à la game de Charlie McAvoy, par exemple. Et donc, je m'attends à voir comment il pourrait travailler avec Logan Mailloux pour l'aider à évoluer.
Non, mais en même temps, pour moi, là, ça fait du sens ce que vous dites. C'est certain, on peut dire, je sais pas, moi...
C'est récurrent si tu dis l'inverse, puis on est juste pas là.
Non, mais je veux pas, comme je veux dire, je veux pas rien jinxer en disant il y en a un des deux qui peut se blesser. C'est pas le genre de choses qu'on souhaite.
Non, mais
si les deux continuent d'évoluer dans la Ligue nationale, je pense pas que c'est une transaction de dire, hey, dans 3 ans, le Mailloux va être tellement bon que les Blues vont avoir gagné cette transaction-là. D'ici ce temps-là, Bolduc tant qu'à moi, va avoir amené des dividendes incroyables dans les trois premières années, puis continuer d'évoluer. À ce moment-là, ça va devenir un win-win. Là, la question qu'on pose, c'est est-ce que le Canadien gagne cette transaction-là à date? Puis si vous me répondez, peut-être que dans trois ans, on va changer d'idée.
Ah, moi, j'ai
mais
dit
le Canadien
oui,
va l'avoir gagné, cette transaction-là.
Greg, faut que tu gères un peu. Moi, j'ai dit oui, il va le dire que je le
vois.
C'est déjà gagné. Faut que je me gère.
On roast Greg.
Mais non, dans ma tête, c'est déjà gagné là-dedans. Puis, t'sais, on l'a dit, on parle de défenseur. Puis, je trouve ça tellement. D'une façon, c'est tellement vrai, mais tellement ridicule qu'un gars qui est droitier dans la Ligue nationale, défenseur, va avoir un avantage sur tout autre défenseur de ce monde gaucher. Puis, je trouve ça. C'est vrai, mais c'est tellement un... Mettez vos enfants droitiers, faites-les jouer au hockey droitier, puis ils vont avoir plus de chances dans le fond là-dedans. Puis, c'est vrai que c'est un moment d'évaluation, mais je trouve ça assez ridicule que ça soit l'élément aussi qui fait en sorte que ce gars-là se ramasse dans un top 4 versus un gaucher qui va être exceptionnel. T'sais, en tout cas, souvent, c'est un peu plus dans mon évaluation. Puis, tu sais, je viens du côté avant de ce monde, puis j'adore la façon que Bolduc joue. Donc, j'ai peut-être aussi une petite tendance à y aller dans cet angle-là. Le Québécois à la maison qui revient, puis qui semble être dans une belle position pour ne pas avoir trop de pression, puis qui va nous aider, qui nous a aidé déjà depuis le début de la saison. Fait que dans ma tête, on l'a gagné en date d'aujourd'hui.
Mais les faits demeurent les faits. En quatre matchs, Zach Bolduc, 3 buts, 4 points en 4 matchs, différentiel de plus 1. Logan Mailloux, 0 points en 4 matchs, différentiel de moins 7. Et hier, selon les statistiques avancées, c'était le pire match pour un joueur de hockey depuis le début de la saison, celui de Logan Mailloux avec les Blues de Saint-Louis. Ce sont ça les faits quand même, après 4 matchs. Puis oui, c'est juste 4 matchs, mais je vous rappelle, ce sont les faits. C'est
attention
ça qu'on
à fixe, le Carrel va te dire d'aller gérer.
D'ailleurs, Logan Mailloux ne joue pas non plus sur aucune des deux vagues d'avantage numérique à Saint-Louis. Il est sur la troisième paire de défenseurs.
On va prendre un petit 2 minutes.
C'est ça.
Si vous voulez bien.
On compare un développement versus un impact maintenant.
Oui, exact.
On est un peu sur la même page en s'obstinant, mais ouais.
Je peux-tu aller à la pause, Karen? C'est correct?
Non.
On revient et on va vous demander, c'est la question sur laquelle FX et moi avons, on n'a pas débattu, on a fait un top qui surpasse les attentes depuis le début de la saison, puis on vous a posé la même question, on a hâte d'avoir vos réponses. On vient avec nos deux mangeux de puck.
Ici, ça joue rough. Tout pour avoir le dernier mot. Voici les mangeux de puck.
De retour avec les excellents Marco D'Amico et Karel Aimard, qu'on ne peut pas prononcer à l'italienne, bien qu'elle était en Italie la semaine passée.
J'aimerais ça que ça rime avec toi, Marco, je trouve ça. Ouais.
Faudrait Karel, mon nom rime au complet parce que c'est Marco Nico D'Amico.
Ouf! Ouais. C'est imbattable.
Marco Nico D'Amico. Ça, tu n'aurais pas dû me dire ça. Là. Tu viens rajouter mot dans la façon que je te présente actuellement.
Coco.
Tu vas chanter, mais c'est ça que ma grand-mère m'appelait Coco. C'est
pour ça. Ah ouais?
Je le savais.
Ben, voyons donc.
En plus, ah non, t'es parfait. Coco D'Amico.
Coco D'Amico. Je débarque.
C'est cute.
Ciao, okay. Les amis. OK, bye. Ciao.
Non.
Quand on va se voir ce soir, Marco, là. Coco D'Amico, là.
Coco D'Amico. Au match.
C'est quoi la hauteur de la passerelle vis-à-vis de la glace?
C'est une mort certaine, c'est sûr.
Je sais pas, on peut le tester. Il y a un filet en dessous,
non,
si tu veux.
Non.
OK. Ah, t'aurais pas dû me dire ça, Marco. Je suis plus capable d'être sérieux.
Ben non, aux choses sérieuses. Quelle est ta dernière question?
Quand est-ce que t'as commencé sur cette chronique-là, bro?
OK. Un peu de sérieux. Il nous reste pas grand temps ensemble. Il faut débattre rapidement. On a deux joueurs qui pourraient faire l'équipe américaine qui sont avec les Canadiens. L'équipe américaine aux prochains Olympiques. Lane Hutson, qui avait été boudé dans le camp
d'orientation
cet été, a été rajouté sur la liste provisoire américaine maintenant. Selon vous, Karel, je commence avec toi et on va y aller avec Marco par la suite. Qui a le plus de chances entre Lane Hutson et Cole Caulfield de faire l'équipe américaine?
Pour moi, c'est Cole Caulfield. Cette année, en étant... Puis je sais que vous êtes obstinés, les gars, mais pour moi, c'est Cole Caulfield, son impact qu'il pourrait avoir à l'avant. Puis simplement parce que je regarde la liste de défenseurs du côté des Américains, puis je me dis, tabarouette, ce serait vraiment difficile que pour Lane Hutson de se tailler ou de se frayer un petit espace, quelques minutes par game même. Fait que je vais avec Cole Caulfield. À voir.
Ouais. Marco?
Même chose. Pas grand débat là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le monde qui ont un Cole Caulfield, même les Américains. Oui, tu peux avoir Austin Matthews comme buteur. Oui, tu peux avoir un Kyle Connor. Mais je pense que tu as besoin de plus que ça pour marquer des buts. Et la façon qu'ils ont perdu dans le championnat du monde, excuse-moi, pas le championnat du monde, mais les quatre nations, c'est qu'ils ont mis Kyle Connor à l'écart quand il avait besoin de marquer des buts. Ouais. Et malheureusement, ils ont manqué de gaz à la fin. Donc, je crois qu'ils ont appris de leur leçon et ils vont essayer de mettre les meilleurs joueurs de talent qui sont capables de jouer une game, disons, physique dans leur limite. Et c'est une des raisons pourquoi je m'adresse sur le cas de Caulfield, parce que Caulfield, on le connaît très bien, fin marqueur de but. Mais c'est ce qu'on voit de lui quand il n'a pas la rondelle sur la palette qui m'impressionne le plus depuis le début de la saison. Ouais. Même s'il est 5 pieds 7, il est physique, il a renversé quelques joueurs de 6 pieds 2 et plus ouais. depuis le début de la saison. Bâton actif, très bon en zone neutre pour couper des passes, relance, devenu un fin passeur aussi, pas juste un sniper. Donc, il y a une diversification de son jeu et plusieurs couches qu'il a ajoutées à son jeu qui le rend un joueur dynamique, que ce soit en zone neutre, en zone offensive et maintenant aussi en termes de la façon qu'il se replie et aide les défenseurs dans la transition, okay. défensif aussi. Donc, pour moi, il y a beaucoup de qualités qui a ajouté qui ferait en sorte que je l'aurais dans mes 12 attaquants partant exact. Pour équipe USA.
On verra où est-ce que... Karel, 10 secondes.
Parce que j'allais dire, t'es pas obligé de le mettre sur ton top 6, justement, à cause de toutes ces
parce qu'il est responsable sur 200 pieds maintenant, effectivement.
Exactement.
On vous nomme 6 joueurs. Nommez-moi les deux qui surpassent le plus vos attentes depuis le début de la saison avec les Canadiens de Montréal. Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Bolduc, Doc et Newhook. Karel.
Par rapport à mes attentes, moi, je trouve que Caulfield et compagnie les rejoignent, mais je ne m'attendais pas ou je ne savais pas à quoi m'attendre de Bolduc. Puis l'autre chose, c'est un que j'avais vraiment plus bas, Slav, en ce moment. Puis je sais que c'est un sujet tough. Mais je peux m'expliquer, puis c'est loin de la rondelle ou de le gars qui, en ce moment, l'année dernière, je trouvais qu'il dérangeait son trio versus qu'il était comme un peu plus une... il était pas là à bonne place au bon moment ou récupérer des rondelles ou faire ces choses-là versus cette saison. Depuis le début, ouais, je te dirais que peut-être il y a eu un match que c'était correct, mais autre que ça, j'ai trouvé constant dans ses récupérations de rondelles, dans ses batailles, même dans ses mises en échec. Les gars, il est deuxième dans le Canadien, dans les rangs du CH, au niveau, que ce soit des récupérations de rondelles, des tirs tentés, des mises en échec. Fait que pour moi, il surpasse mes attentes en ce moment, basé sur son jeu loin de la rondelle, mais sa façon de garder la puck en vie versus ce qu'il faisait l'année dernière. Fait que c'est un peu là où je m'en vais là-dedans.
Marco?
Moi, j'avais Slavkovski troisième sur ma liste, fait qu'on n'est pas loin là-dessus. Numéro un et deux, c'est certain que pour moi, j'aimais beaucoup déjà Cole Caulfield. J'avais des autres attentes pour Cole Caulfield offensivement, mais encore une fois, je viens d'en parler, fait que ça sera vraiment pas long. Mais Cole Caulfield, quand il n'y a pas la rondelle sur la palette, pour moi, est le meilleur trio, le meilleur joueur sur son trio à date en début de saison,
ouais.
À 5 contre 5, en avantage numérique. C'est un joueur qui se laisse pas imposer. C'est un joueur qui s'impose. Qui aurait dit ça d'un jeune de 5 pieds 7 que tout le monde appelait unidimensionnel quand il est rentré dans la Ligue aujourd'hui? Pour moi, la façon qu'il joue, c'est un joueur qui est capable de imposer son rythme sur le jeu. Et ça, c'est un joueur élite, pour moi, de haute gamme, qui peut non seulement t'aider quand ce qui vient de temps à ton jeu de transition, parce qu'il a vraiment amélioré son explosivité, mais dans ses replis. Puis je pense que c'est vraiment là où ce que sa valeur est allé d'un cran de plus, parce que là, on le sait, là, il est à un point par match, c'est beau, on connaît son offensive, mais la façon qu'il ne, même si le trio, le premier trio ne connaît pas le début de saison qu'ils ont connu par le passé, ils sont capables et ils sont utilisés dans une façon shutdown aussi, parce qu'ils ont débalancé le quatrième trio. Donc, ils sont toujours matchés contre le premier trio, l'opposé, et Cole Caulfield gagne 75% de ses batailles à un contre un. Avec ce monde-là, que ce soit en défensive ou en offensive. Donc, pour moi, Cole Caulfield, numéro un. Numéro deux, Alex Newhook, pour moi. Et la raison pour laquelle je ne m'attendais pas à une chimie avec Ivan Demidov. Mais numéro deux, la confiance qu'il semble prendre de devoir jouer en désavantage numérique. D'habitude, quand tu passes de l'avantage numérique à désavantage numérique, il y a comme il y a comme un choc d'esprit où ce que tu dois vraiment recibler la façon que tu vas établir tes buts. C'est quoi que tu veux faire sur la glace. Ça semblerait que son jeu en désavantage numérique, sa rapidité, sa capacité de vraiment être capable d'attaquer le joueur adverse et les pousser vers l'extérieur et être agressif sur l'échec avant, on dirait que ça se transmet ce succès-là à 5 contre 5. Et c'est là où on voit plus de confiance de sa part.
Exact.
Et sur son trio, c'est vraiment lui qui complimente Ivan Demidov. Et d'ailleurs, quand Martin Saint-Louis a rétréci le banc en fin de troisième contre Seattle, c'était Alex Newhook avec Kirby Doc et Ivan Demidov. Et c'était pas par accident. Je crois que ce jeune homme-là est en train de vraiment définir son identité. Et s'il est capable d'apporter cet aspect-là défensif à son 5 contre 5, ça va être un allié de top 9 qui va être capable de jouer sur les trois premiers trios au besoin.
Merci, Marco. J'aime ça ton... en fait, tu m'as surpris avec ton choix de Caulfield, mais finalement, ce que je me rends compte dans ton argumentaire, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un de 5 pieds 7.
T'as-tu compris?
J'aime ça entendre ça, non? Mais non, tu vois, je donnais plus de crédit à Demidov, puis t'as raison d'en parler, que Newhook, faut que t'aies une qualité puis une intelligence hockey pour être capable de jouer avec certains joueurs aussi. Autant je le trouvais vraiment nord-sud que... C'est vrai que peut-être son expérience avec l'Avalanche aussi, troisième trio, un peu plus réduit dans les rôles, de prendre la confiance à travers ces moments-là versus être déprimé quand tu te fais sortir du power play versus...
Une attitude exemplaire.
Exactement, je pense qu'on a un bon leader là-dedans aussi, dans ce moment-là.
Karel, bon retour encore. Quel plaisir de te revoir avec nous. Et Marco, on te voit ce soir, mon ami. Bon match à vous deux.
Bon match, bonne journée tout le monde.
Salut, merci encore
une fois. Salut.